un peu short. C'est vrai que Jacques Maresco fait partie de la famille, en quelque sorte, mais qu'il est là sous une casquette un peu différente. Bonjour, que le professeur Druet et M. Gallois donc, nous font l'honneur d'être présents parmi nous aujourd'hui. On les laissera aborder directement le sujet. De mon côté, le propos introductif, il consiste vraiment de façon très, très concise à souligner que jusque-là, et par choix d'organisation, après le propos introductif donc des représentants des familles et des patients, il nous appartenait de faire un peu le point, l'état des lieux sur ce qui se réalise aujourd'hui sur nos établissements d'un point de vue sanitaire, même si la dernière intervention s'est voulue plus large, et qu'il s'agit, quand on aborde maintenant la question de la territorialité, mais je crois qu'on l'a compris dans l'introduction de Madame de Haas, sous l'angle des actions et des coopérations, de bien voir qu'il s'agit là maintenant d'aborder la question des acteurs et des jeux d'acteurs entre eux. Donc je m'arrête là, puisque évidemment, vous aurez compris que sur cette seconde séance, nous élargissons le champ des acteurs et que nous commençons à nous poser la question plus concrètement de savoir comment nous allons travailler les uns avec les autres.
Merci beaucoup. Merci aux organisateurs et à vous-même d'avoir invité la Fédération des acteurs de la solidarité à cette journée, reconnaissant ainsi la place que vous accordez aux acteurs du secteur social comme membres à part entière du système de santé. Je reviendrai évidemment longuement sur ce point, enfin, je n'espère pas trop longuement. Je voudrais d'abord vous dire ce qu'est la Fédération des acteurs de la solidarité. Elle s'appelait jusqu'à la fin de l'année dernière la FNARS, que vous connaissez peut-être mieux comme sigle. Nous avons décidé de changer de sigle. Nous réunissons à peu près 850 associations dans le secteur de la lutte contre l'exclusion et contre la pauvreté. Et nous avons également des fédérations en région qui s'investissent dans les instances de concertation prévues par la loi santé, qui travaillent avec les acteurs de la psychiatrie et de la santé mentale. Vous pouvez vous demander un peu pourquoi je suis là. Je suis là d'abord évidemment parce que j'ai été invité, mais aussi parce que les problèmes psychiatriques, nous les rencontrons absolument tous les jours avec les publics dont nous nous occupons. Nous les retrouvons, je le dirai tout à l'heure, mais dans les centres d'hébergement, dans les maraudes évidemment qui sont faites. Nous les retrouvons dans l'ensemble des publics qui sont en très grande difficulté. Les difficultés de logement, les difficultés de travail, les difficultés de ressources s'accompagnent très très souvent de difficultés de santé et de santé psychique. Alors ça fait plusieurs années que notre fédération reconnaît la nécessité de mieux travailler avec le secteur de la psychiatrie et les usagers de la santé mentale. C'est d'ailleurs à cet effet que nous avons élaboré et signé une charte en 2014 avec l'ANPCME, la FNAPSI et l'UNAFAM. Et nous nous félicitons que cette charte ait permis d'intégrer dans la loi santé, j'avais vu Madame Touraine sur ce sujet, le programme relatif au maintien dans le logement et d'accès au logement et à l'hébergement accompagné pour les personnes en souffrance psychique. Ceci a été possible grâce au portage politique interassociatif qui s'est concrétisé dans la commission santé de l'UNIOPS, dont a également émané ce que nous appelons le consensus de Blois, qui est un consensus sur lequel je reviendrai, parce que non pas pour le décrire, vous le connaissez et je ne vais pas le relire, mais parce qu'il inspire beaucoup des développements que je vais vous présenter. L'accompagnement global de la personne, pour nous, doit comprendre à la fois donc le suivi sanitaire, psychiatrique lorsque c'est nécessaire, mais aussi l'accompagnement social, un accompagnement vers l'emploi, vers le logement. C'est-à-dire que nous considérons que les problèmes sont tous liés les uns ensemble. Les difficultés se répondent l'une l'autre et s'amplifient dans le fait qu'elles sont concentrées sur les mêmes personnes. Et nous le constatons tous les jours, comme je le disais en introduction. On ne peut pas parler, par exemple, de santé sans parler de logement. On ne peut pas évoquer l'emploi sans prendre en compte la dimension santé de la personne, également. Une des principales difficultés que les publics que nous rencontrons éprouvent vis-à-vis de l'emploi, c'est que les employeurs craignent, justement, ces problèmes de santé psychique, parce qu'ils les rencontrent dans nos publics. Et nous devons les surmonter cet obstacle. Je ne vous parle pas, évidemment, des sorties de prison, dont une partie essentielle, dont une partie très, très importante, a également des problèmes psychiques. Une vie d'errance, vous le savez, des ruptures dans les parcours expliquent que de nombreux troubles psychiatriques. L'étude de Samantha de l'Observatoire de SAMU Social de Paris et de l'INSERM en 2009 nous le disait déjà, en Île-de-France, un tiers des personnes sans-abri souffrent de troubles psychiatriques sévères. Les problèmes sociaux, la précarité, les pathologies somatiques et mentales se conjuguent en se renforçant mutuellement. D'autres résultats avaient été publiés par l'Observatoire du SAMU Social de Paris, que nous suivons d'ailleurs avec beaucoup d'attention parce que ce sont des études extrêmement riches pour nous. Et via l'étude « Enfants et familles sans logement personnel » en Île-de-France, 29% des mères hébergées à l'hôtel souffrent d'épisodes dépressifs et 19% des enfants de 4 à 18 ans ont des troubles suspectés de la santé mentale. Dès lors, il est évidemment essentiel que les professionnels de secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires s'allient pour accompagner au mieux la personne dans sa globalité. Sur certains territoires, vous le savez, le cloisonnement institutionnel, culturel entre les secteurs persiste. Et il est plus que nécessaire de s'allier dans un contexte de massification de la pauvreté et de difficultés d'accès aux soins sur les territoires. On n'a pas... Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est également une de nos préoccupations. C'est qu'il y a des territoires où il y a une véritable difficulté d'accès aux soins, ce qui fait qu'on ne traite pas les problèmes et que donc ces problèmes s'amplifient. Notre fédération accompagne quotidiennement les intervenants sociaux de son réseau dans leur formation, à l'accompagnement, santé, et elle les aide à se rapprocher des acteurs du secteur sanitaire pour mieux identifier les partenaires de la psychiatrie et pour travailler avec eux. Sur certains territoires, et un qui m'est particulièrement cher, qui est le Tarn-et-Garonne, puisque je viens de ce beau département, des formations croisées ont été mises en place. Nous sommes extrêmement intéressés par ces expériences de formation croisée, financées par l'ARS et qui fonctionnent, à notre avis, très bien. Nous souhaitons que les ARS, plus généralement, s'emparent et financent ces projets concrets qui permettent aux professionnels de mieux accompagner les personnes. Formation croisée, sanitaire pour les acteurs sociaux, sociale pour les acteurs sanitaires. De même, nous incitons nos adhérents à investir les instances de concertation du projet territorial de santé mentale, qui peut être, nous le croyons, une véritable avancée. Nous croyons beaucoup à la démarche territoriale. Nous croyons beaucoup au rapprochement des acteurs sur les territoires. C'est pour nous quelque chose d'absolument essentiel dans tous les champs qui sont les nôtres, que ce soit encore une fois ceux du logement, ceux de l'emploi, ceux de l'accès aux droits, ou ceux, bien sûr, de la santé physique et psychique. Grâce au lobbying intensif des associations, et nous y employons, du secteur de la lutte contre les exclusions, des fédérations de santé mentale, des acteurs de la psychiatrie qui ont construit leur plaidoyer ensemble, la loi de modernisation de notre système de santé reconnaît désormais la nécessité de coordination et de partenariat des acteurs du social, du médico-social et de la psychiatrie dans l'accompagnement global de la personne. Je pense que ça a été une avancée de cette loi de modernisation de nos systèmes de santé que de reconnaître le lien entre la santé et le secteur santé et le secteur social. Tout l'enjeu, alors que le projet territorial de santé devrait bientôt se mettre en place, sera à la fois de mobiliser tous les acteurs en son sein, mais également d'en faire un outil effectif de mise en œuvre de la politique régionale de santé mentale. Il importe pour nous plusieurs choses. Premièrement, que le projet territorial associe effectivement les acteurs sociaux et médico-sociaux et les personnes en situation de précarité. Deux, que nous puissions participer aux communautés psychiatriques de territoire. Et trois, que les conseils locaux de santé mentale permettent réellement la prise en compte des personnes en situation de précarité. Notre fédération, les associations qui en sont adhérentes, pour leur part, s'intègrent déjà largement dans ces conseils locaux de santé et de santé mentale, par exemple à Lille, véritable espace de coordination des acteurs et de discussion lorsque les situations deviennent trop complexes. Elles peuvent permettre, par exemple, à des encadrants de chantier d'insertion, je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais c'est pour nous très important, de partager des situations complexes qui nécessiteraient un appui des acteurs de la psychiatrie. Nous avons dans les chantiers d'insertion les publics les plus éloignés de l'emploi. Et ces publics les plus éloignés de l'emploi ont très souvent des problèmes qui relèvent de la psychiatrie. De même, certaines associations qui font des maraudes s'inscrivent dans ces conseils pour présenter des situations de renoncement aux soins qui nécessitent d'aller vers la personne. Et ayant effectué moi-même des maraudes, je peux vous dire que ce sont des cas qui se présentent extrêmement fréquemment, du refus de toute assistance, quel que soit le climat, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, les personnes refusent toute assistance. Elles sont dans un isolement total. Alors, comment faire pour que quand ces personnes ne veulent plus voir personne, que la maraude constate qu'elles se mettent en danger, par exemple, elles refusent des couvertures en hiver, des personnes qui refusent qu'on leur donne des duvets ou des couvertures en hiver, qu'elles mettent en danger les autres, parce qu'effectivement, ça peut être des situations qui se répercutent de l'une à l'autre, la vie à la rue peut leur être fatale. J'ajoute un point, la problématique nouvelle des migrants, qui sont également des personnes qui traversent des difficultés, très souvent des difficultés psychiques, soit en raison de leur parcours, soit parce qu'elles viennent de régions où elles ont subi des traumatismes, mais nous rencontrons beaucoup de migrants qui ont besoin d'un accompagnement psychiatrique, et je peux vous dire qu'Emmaüs Solidarité, qui gère le centre de la Chapelle et qui reçoit tous les migrants qui arrivent en France, en région parisienne, dans une sorte de centre de triage, constate, après un examen médical qui est fait, je crois, avec Médecins du Monde ou Médecins Sans Frontières, je ne me souviens plus lequel des deux, qu'il y a également des problèmes psychiatriques qui sont totalement évidents et qui se constatent extrêmement rapidement. Les conseils locaux de santé permettent également de prévenir des situations de rupture en organisant des rencontres entre tous les acteurs concernés qui ensemble peuvent prévenir des mises à la rue de personnes qui ont un logement et qui sont en situation d'incurie. Il est clair que nous avons, avec les bailleurs sociaux, à regarder ce qui est possible de faire. C'est sur ce sujet du logement qu'il nous est apparu essentiel de collaborer dès 2014 avec les acteurs de la psychiatrie et les associations d'usagers. Je l'ai cité, la NPCME, la FNAPSI, l'UNAFAM, notre fédération, en signant cette charte pour l'hébergement et le logement des personnes présentant des troubles psychiques, ont reconnu 5 principes essentiels. Le droit à un logement et un hébergement pour tout citoyen, l'importance d'un accompagnement pluridisciplinaire au domicile des personnes, l'enjeu d'une coordination efficace entre les intervenants du médico-social, du social et du sanitaire, le rôle des conseils locaux de santé et de santé mentale, la nécessité d'une politique interministérielle sur ce sujet, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Il nous paraît essentiel que ces 5 principes soient respectés et mis en œuvre sur tous les territoires. Pour rappel, aujourd'hui, dans certains services, encore 30% des patients restent hospitalisés en psychiatrie, faute de pouvoir accéder à un logement. Ces personnes sont pour la plupart considérées comme incapables d'habiter. La réalité montre que ce n'est pas le cas. Nous avons des expériences comme Un chez soi d'abord, portée par la DIAL, qui est désormais pérennisée. Ce programme démontre qu'une personne sans domicile peut même, après une longue période d'errance et en cumulant des problèmes psychiques, accéder et se maintenir durablement dans un logement autonome à condition, bien sûr, qu'on lui propose un accompagnement médico-social adapté à ses besoins. Le logement, évidemment, ne peut pas être dissocié de l'accompagnement. Il faut cet accompagnement avec une diversité d'acteurs qui doivent se coordonner entre eux. Au vu de la réussite de cette expérimentation du logement d'abord, nous avons demandé un déploiement rapide du programme avec un objectif quantitatif plus ambitieux, l'essaimage du programme à un public plus large, notamment les jeunes et les familles. Et nous considérons que les enseignements du programme et ceux de multiples initiatives de logement d'abord doivent déboucher sur une réforme structurelle du modèle de prise en charge des personnes sans domicile fondé sur l'accès direct au logement. Enfin, je terminerai sur ce point, il est pour nous absolument essentiel qu'une voix soit donnée aux personnes directement concernées. Il est nécessaire que les personnes puissent participer directement aux instances de coordination des politiques publiques à l'image de ce qui se fait au sein du Conseil national de santé mentale où deux personnes accueillies, membres du Conseil national des personnes accompagnées, siègent. De même, ces personnes pourraient être associées aux conseils locaux de santé mentale et s'exprimer, par exemple, sur le projet territorial de santé mentale. Nous le constatons, nous avons maintenant dans toutes nos instances des représentants des personnes accompagnées. C'est un enrichissement considérable pour nos associations et c'est également, et pour le fonctionnement de notre fédération, c'est également évidemment un enrichissement pour les personnes concernées qui retrouvent ainsi, alors qu'elles en sont largement privées, un pouvoir d'agir. C'est ce qui, nous l'espérons, sera un des objectifs poursuivis par la réforme de notre système de santé et la mise en œuvre de notre nouvelle organisation régionale de santé mentale et de psychiatrie sur tous les territoires. C'est tout au moins l'objectif que nous souhaitons poursuivre avec vous. Merci de votre attention.
Juste le temps de passer à l'intervention suivante, j'avais une question toute pratique. On vous connaît beaucoup par vos adhérents sur les territoires avec lesquels on travaille. Et quelle est votre organisation territoriale ? J'admets là une ignorance crasse.
Nous avions 22 associations régionales, nous n'en avons plus que 13. Ce n'est pas notre fait. Nous sommes en train de nous adapter à cela. Donc nous avons des associations régionales que nous appelons fédérations régionales qui sont nos représentants en région que nous réunissons régulièrement dans un conseil des régions et ces associations régionales peuvent être les partenaires de l'ensemble des actions menées dans le cadre régional et notamment par les ARS. Nous suivons le découpage administratif, donc il y a des interlocuteurs au niveau régional pour toutes les actions régionales. Lorsqu'on va plutôt sur les territoires dans les actions locales, c'est plutôt nos associations elles-mêmes qui doivent prendre le relais, mais la coordination est assurée au niveau régional.
C'est le professeur Druet qui prend la relève.
Oui, bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir invité le Collège de la médecine générale à s'exprimer. Je dois dire que je suis arrivé ce matin en me disant on va écouter, on va entendre et puis j'essaierai de réagir de façon pragmatique par rapport à la réalité de ce que j'ai entendu et de la réalité de ce que nous vivons, nous, médecins généralistes. Et comme il a été dit dès le départ, c'est évidemment important de ne pas se centrer sur soi, mais de se centrer uniquement sur l'acteur principal de la problématique, c'est le patient et sa famille et son entourage, qui peut être familial mais aussi professionnel dans certains cas. Je voudrais réagir en abordant cinq points, c'est-à-dire la notion des soins, la notion de territoire, la notion d'organisation, une notion forte qui est la communication et la formation, puisque je suis médecin généraliste, mais aussi enseignant de médecine générale. Pour faire rapide, le collège, c'est la réunion de l'ensemble des acteurs nationaux de la médecine générale, qui comprend le champ professionnel avec les syndicats, le champ scientifique avec des sociétés scientifiques très anciennes et fondatrices, avec de la recherche, la partie académique, puisque vous savez qu'à l'université, maintenant, est enseignée la spécialité de médecine générale depuis 2004 et que les premiers spécialistes de médecine générale sont sortis des universités en 2007. Et puis toutes les structures qui s'occupent au niveau national de la formation, de recherche, mais aussi de niches comme les sciences humaines, comme les sciences sociales qui viennent interfacer et impacter sur la pratique des médecins généralistes. Et ça va être l'occasion pour moi d'ouvrir tout de suite et de vouloir tordre le cou à un mot, c'est les soins somatiques. Arrêtez d'appeler ça soins somatiques, parce que vous allez fabriquer des somaticiens. Ils sont dans les tuyaux. Vous avez des médecins cliniciens et des médecins généralistes en particulier qui assurent une fonction que la loi leur a conférée par le choix des patients qui ont eu l'intelligence de les choisir à plus de 99%, c'est la fonction traitante du médecin généraliste. Et dans cette fonction traitante, il y a trois notions qui apparaissent. C'est quelle que soit la problématique de santé, on la prend en charge, quelle que soit la personne, quel que soit son âge, sa race, ses pensées et ses problématiques propres. Et ça impacte aussi sur ce qu'on peut regarder, effectivement, de la distribution de soins sur le territoire et de l'accès aux soins. La deuxième notion, c'est que nous sommes effectivement là pour aborder donc des soins cliniques. Et je ne fais pas l'économie de mettre dans les soins cliniques les problématiques qui sont soit de mal-être, soit de souffrance, et pas seulement que psychiatriques. Parce qu'en fait, pour forcer le trait, je dirais que nous sommes tous des patients psychiatriques en puissance. Peu ou prou, en fonction de ce que la société nous propose à certaines étapes de la vie. Et donc, cette approche que vous connaissez bien, qui est le modèle biopsychosocial, le modèle développé par Engel, il impacte quotidiennement dans la pratique des médecins. Avec les limites que nous connaissons tous, c'est la compétence des médecins, j'en ferai pas l'économie, c'est la disponibilité des médecins, et c'est l'existence sur le territoire de médecins pour prendre en charge la population. Avec aujourd'hui une société qui n'a pas suffisamment pensé à l'avance un maillage territorial adapté pour distribution des soins à la population dans les premières lignes de ce que sont les soins, pas seulement faits par des médecins, mais aussi par d'autres professionnels de santé et des acteurs sociaux, parce que je ne fais pas l'économie de mettre les acteurs sociaux dans le champ de la santé et du soin. J'ai entendu que les patients ne se déclaraient pas à leur médecin. C'est dramatique. Mais posons-nous la question. Sûrement, la stigmatisation est un élément fort de la limite de la déclaration. Mais là, on a un travail à faire, à bien faire comprendre que le médecin, il a une mission, il a des obligations, il doit construire de la confiance, il y a le secret médical, il y a le secret professionnel, et puis il y a l'éthique de responsabilité qui vient aussi impacter sur comment il va gérer ses patients. Et je trouve ça assez dramatique dans la mesure où ignorer qu'un patient est sous traitement neuroleptique, ça ne peut qu'aggraver la situation des soins qu'on va lui conférer éventuellement. Donc là, si on veut que les patients soient acteurs de soins et soient effectivement partie prenante, il y a tout un travail d'information et d'échange à faire pour qu'on casse cette logique de cacher. Alors, on le sait tous, parce qu'il n'y a pas que dans le champ de la psychiatrie que les patients nous cachent plein de choses. On est informé souvent très en retard de situations, y compris d'interventions chirurgicales qu'on découvre par hasard ou parce que tout d'un coup, au dégoût d'un événement, on en parle et ça fait irruption dans le schéma de vie du patient et dans son dossier. On en reparlera du dossier. Et puis il y a aussi l'accompagnement des proches, de la famille, et toute la notion de systémique familiale, de systémique environnementale, qui vient aussi impacter sur comment on accompagne et on prend en charge donc non seulement la problématique de santé et le patient. On pourrait en dire plus, mais je vais m'arrêter là pour aller sur le territoire. Pour nous, le territoire tel qu'il peut être défini, c'est celui de l'offre de soins. On n'a pas le choix. Il y a des endroits où le territoire il est restreint, il y a des endroits où le territoire il est monstrueusement élargi. J'ai bien aimé cette diapo qui montre une magnifique lac, mais avec un beau désert. Enfin, c'est un désert où il y a de l'eau, c'est déjà un progrès. C'est aussi celui de la disponibilité des acteurs. Et ce n'est pas toujours le rendez-vous n'est pas toujours facile à créer. Et de plus en plus, il sera difficile à créer parce que la nouvelle génération n'est pas du tout dans la logique d'une disponibilité aussi forte. Quand on est dans une société, un corps professionnel d'ensemble qui demande à être dans un modèle qui est celui d'une société de loisirs, ça peut poser des problèmes. Et là encore, ce pays n'a pas envisagé et anticipé, et ce n'est pas le numerus clausus qu'on va augmenter demain qui va résoudre des problèmes dans les 10 années à venir. Ensuite, il y a le problème de l'organisation. Alors moi, je suis ravi de découvrir qu'on s'organise. Et organisez-vous, mais dépêchez-vous. Dans un pays que moi, je considère en voie de sous-développement, il faut agir tout de suite. Il faut se dépêcher d'agir. Un, parce que ça va nous permettre, nous, acteurs de première ligne, d'identifier les lieux, les schémas, les structures et les acteurs. C'est-à-dire que la question récurrente que l'on se pose tout le temps, nous, quand on réfléchit à l'organisation des soins et quand on réfléchit à quel rôle on va jouer dans la société au-delà du soin, c'est qui fait quoi dans ce foutu système qui n'est pas organisé encore aujourd'hui. J'ai entendu un jour à une assertion selon laquelle il n'y avait pas de système de soins, il n'y avait pas d'organisation des soins, la réponse d'un ministre qui m'a dit « Si, il y a une organisation des soins, il y a un ministre. » C'est un peu court. Et donc là, quand on parle d'organisation, il y a aussi les moyens mis à disposition, il y a les budgets. Et c'est clair, la diapo qui faisait l'état de cette monstruosité de l'hôpital centré et de l'hôpitalocentrisme, on a contribué à le faire un peu éclater. Et la chance qu'on a, et j'y viendrai par rapport à la communication, c'est que la première spécialité exercée en France, c'est la médecine générale. La deuxième, c'est la psychiatrie, en termes de masse et en termes de nombre d'acteurs potentiels sur le territoire. Donc le rapprochement, il est naturel et il est normal. Il est même nécessaire. Donc ça veut dire qu'il faudra et qu'il faut, et c'est peut-être pas encore pour demain, qu'il y ait un vrai transfert budgétaire, ce que certains appellent des parts de marché, des soins secondaires vers les soins de première ligne, y compris les soins de santé, et ce que M. Gallois a dit, impacte complètement sur la réflexion qu'on doit avoir, c'est-à-dire que ça commence même avant d'arriver dans le cabinet du médecin, cette affaire. Et donc la notion de soins ambulatoires, on doit la partager avec des gradients et avec des organisations intelligentes. Ce qui m'a un peu dérangé dans la présentation qui a été faite aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas les acteurs libéraux apparaître de façon claire et très vite. Ça a été le cas pour les dernières diapos concernant le Haut-Rhin, parce que si on ne regarde pas aussi ce maillage territorial fin et si on ne parle pas à ces gens-là, et si on ne leur dit pas « coucou, on existe », on a toutes les chances que ça fonctionne encore en cercle fermé, un peu élargi, mais complètement fermé quand même. Donc, sortons du cercle pour que cela fonctionne. Et là, j'interviens dans le champ de la communication. En mars 2014, on a signé avec les établissements psychiatriques de secteur une charte, le Collège de la médecine générale, pour qu'enfin, on réfléchisse à comment on peut communiquer mieux, comment on peut échanger mieux. Je ne vais pas vous faire tout le détail de la charte, elle est dans votre dossier. Alors, c'est gentil de signer une charte. C'est merveilleux, il y a deux signatures à faire. On ne s'est pas fait la bise, mais on aurait pu. Ceci étant, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de l'expérimenter et de voir si ça fonctionne, de voir où sont les freins, où sont les obstacles, et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on a développé sur plusieurs sites des travaux de recherche, on a mis des internes de médecine générale, on a mis des acteurs des deux niveaux pour travailler localement et territorialement en choisissant des territoires très différents les uns des autres, et de regarder comment ça marche et comment on peut encore optimiser une charte qu'il faudra peut-être réécrire à l'aune de ces travaux qui vont nous montrer la faisabilité et la pertinence de ce qu'on a imaginé ensemble. Ça veut dire aussi des outils communicants. Dans une société aujourd'hui où il paraît qu'on a plein d'outils pour communiquer, on communique de moins en moins, avec des figles, avec des mots-clés ou avec des raccourcis, et surtout pas en français. Donc, sur le plan pratique, il nous faut effectivement des outils communs. Et on voit bien que le dossier médical partagé, ce monstre du Loch Ness à 3 millions ou 4 millions d'euros, il n'est toujours pas en classe. On voit bien que les systèmes cryptés de communication sont aujourd'hui tous dans l'impossibilité de communiquer entre eux. Donc il faudra peut-être même quand même un peu d'ordre au départ, parce que sinon on va continuer, là encore, à fonctionner complètement avec des systèmes étanches. Et dans cette société où on fait des silos, il serait temps qu'on fasse des lacs, qu'on fasse des endroits où on puisse se rencontrer sans avoir besoin de forcer des barrières ou des murs. Enfin, la formation. Ben, y a la formation initiale, mais il faut du temps pour que ces acteurs viennent ensuite impacter dans la pratique professionnelle. Ça commence, puisque 2017, ça fait 10 ans maintenant que sortent des médecins généralistes formés différemment à la fac, et le pari, c'est sur la jeune génération, mais avec les limites que je vous ai dites, qui sont la disponibilité et un regard sur la santé qui n'est pas le même que celui qu'on avait auparavant. Moi, mes internes, ils me regardent en me disant « t'es un Indien », parce que je suis encore à 9h du soir dans mon cabinet. Eux, à 7h, ils sont chez eux à s'occuper de leurs gosses. Et je pense qu'ils ont raison et que nous avons eu tort de créer ce modèle. Et que là, il faudra aussi partager quelque chose, parce que les troubles médicaux, les troubles de santé, les troubles psychiatriques, c'est 24-24. Donc il y a aussi une organisation à prévoir. Ce qui me paraît important, c'est que très vite vous construisiez cette territorialité des hôpitaux, mais il faudrait très vite que vous regardiez un peu ce qui se passe. Il y a des endroits où il y a énormément de psychiatres libéraux disponibles. Il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Et on ne peut pas faire les mêmes modèles. Donc ce que j'aime bien, c'est ce regard un peu de régionalisation, mais peut-être même encore à un niveau plus petit, et que l'on passe de l'expérience à une modélisation, mais qui ne soit pas complètement étatique, mais qui soit souple. Il nous faut des cavaliers légers et des petites troupes mobiles pour que ça fonctionne. Napoléon, il avait compris ça avant les autres. Mais il faut qu'on fasse le même modèle. Et enfin, la formation, c'est aussi une interformation, sûrement, à l'origine dans l'université, entre la psychiatrie et la médecine générale. Il y a des partages à faire, il y a des connivences à créer, parce que c'est au berceau, à l'université, qu'on peut créer ensuite les modèles qui vont être efficaces dans la vraie vie. Et enfin, je voudrais pointer du doigt que la pédopsychiatrie est plus que le parent pauvre. Et pour vous signaler, parce que en tant que médecin généraliste et universitaire, on a quand même 3 facs en France qui n'ont pas de chaire de pédopsychiatrie qui sont fournies. Et quid de la formation et quid de la transmission demain à d'autres qui auraient envie d'être pédopsychiatre demain. Voilà. C'est pas très optimiste ce que je dis, mais c'est réaliste. Et j'ai passé ma vie à avoir les 2 mains dans la farine et les 2 pieds dans la glaise, et je continuerai à le faire tant que j'exercerai ce métier.
J'en témoigne pour la pédopsychiatrie. 2 informations. La première, c'est que président de CME et ADESME ont commencé de travailler depuis l'automne dernier sur cette question du partage de données, le DPI de territoire où j'ai acheté, c'est bien, mais la question du partage des données et des informations avec l'ensemble des acteurs, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille tous ensemble. 2e point, et pour vous rassurer, je ne sais pas si c'est le bon terme, nous avons prévu, parce qu'on essaie de voir plus globalement, à Hôpital Expo le 17 mai, sur une conférence de 10h à 13h, accès libre et gratuit. Et Dieu sait si la psychiatrie doit investir aussi ce type de cercle. On est très peu présent et peu attractif. On a prévu 3 heures spécifiquement sur la relation entre la psychiatrie et le premier recours. Donc ce que vous avez souligné là, il va falloir qu'on le développe.
Oui, j'étais au courant, merci.
Un point complémentaire sur les formations. Nous sommes à une période où sont enlevés des postes de formation d'interne de médecine générale des établissements spécialisés, je tenais à le dire.
Oui. Et donc, le docteur Perron fera le 17 mai, et pas toute seule, mais je la cite en particulier comme elle est là, le bilan de la charte, hein, puisque vous avez souligné, elle est dans les dossiers et qu'il faut qu'elle aille au-delà des expérimentations qu'on a commencé de mettre en œuvre.
Avec Vanda Yeklef qui est dans la salle.
Voilà. Jacques, tu as un petit quart d'heure pour conclure cette table ronde avant qu'on passe à une synthèse plus générale.
Merci de l'invitation. Je ne fais pas partie, enfin, la Santé Mentale France ne fait pas partie du groupe des 6 organisateurs, mais je pense qu'on est. Ils sont tellement addicts qu'on m'a demandé de revenir cet après-midi pour la 2e table ronde. Je pense que pour la plupart d'entre vous, Santé Mentale France, vous avez à peu près une représentation, mais je vais tout de même la préciser pour les quelques-uns qui pourraient ne pas savoir. C'est la fusion en juin 2016 de quelque chose que vous connaissez tous, puisque vous êtes essentiellement issus du milieu hospitalier, c'est-à-dire la Fédération Croix-Marine, donc issus du milieu hospitalier, après la guerre, pour soigner en dehors de l'hôpital, etc., défenseurs du secteur, promoteurs du secteur, etc., et promoteurs d'une autre façon de soigner, d'une autre relation de l'institution soignante à la personne soignée. Et puis Agapsi, que vous connaissez peut-être un peu moins, mais enfin certains d'entre vous sans doute si, qui était une fédération qui, elle, a été créée après la loi de 2005 reconnaissant le handicap psychique, essentiellement à l'initiative d'associations de familles, d'ailleurs des familles, d'associations locales de familles, mais en général adhérentes à l'UNAFAM, et gestionnaires d'établissements, mais auxquels se sont agrégées d'autres associations du secteur médico-social. AGAPSI n'avait pas de composante spécifiquement sanitaire, sauf quelques associations, dont celle que je dirigeais, qui avaient du sanitaire et du médico-social. Voilà. Aujourd'hui, c'est environ 400 adhérents. On est en train de mettre en place, nous aussi, les coordinations régionales, mais avec la double complexité qu'il faut fusionner deux types d'organisations et des nouvelles régions. Donc, c'est pas simple. Alors, grosso modo, une grosse moitié d'associations gestionnaires du secteur médico-social et social, et une moitié des adhérents qui sont soit des établissements de santé publique, qui étaient historiquement et qui restent adhérents, et même on a de nouveaux adhérents ou des adhérents qui reviennent, qui s'étaient un peu écartés, établissements de santé mentale, ainsi que des associations, les anciennes associations de secteur ou des associations professionnelles et des GEM. Car il y a eu, dès leur création, un certain nombre de GEM qui ont adhéré à Santé Mentale, à Croix-Marine à l'époque. Donc voilà, pour faire rapide. C'est bien une journée de travail aujourd'hui, car les réponses ne sont pas dans la loi sur la question de la territorialité, ni dans le projet de décret PTSM, puisque ce n'est pas son objet non plus. Mais pour faire un projet territorial, il faut commencer par définir le territoire, établir un diagnostic et définir des acteurs. Alors, première petite observation, j'espère que le travail d'aujourd'hui ne sera pas vain. Dans les deux candidats qui restent à la présidentielle, l'une, si elle est élue, je pense qu'il y aura de toute façon tellement d'effervescence qu'on ne pensera plus au territoire, on pensera à autre chose. Quant à l'autre, il a prévu dans son programme de supprimer les départements. Alors, M. Gallois me disait en aparté tout à l'heure, ça n'est pas le premier, ils existent toujours. Certes, mais on voit bien qu'à travers la loi de 2015, il y a tout de même eu des évolutions, oui, avec la création des métropoles, et que, toujours est-il que s'il y avait une réforme à nouveau des échelons administratifs et des échelons territoriaux au niveau public, ça aurait sans doute une incidence sur cette réflexion. Raison de plus de vous inviter de prolonger la réflexion au cours des journées que nous organisons à Amiens au mois d'octobre sur le même thème, le projet territorial de santé mentale, quels bénéfices pour les usagers. Alors, s'agissant des territoires qui font l'objet de la table ronde, la loi ne dit clairement qu'une seule chose, c'est qu'ils doivent être d'une taille suffisante, d'un niveau suffisant, de niveau territorial suffisant, dit l'article 69. On a une indication tout de même. Alors, ça peut être, est-ce que le niveau correct, c'est les CPT qui couvrent, comme la CPT du Rhône, qui couvre tout le département du Rhône, ça fait 1 700 000 habitants, ça me paraît pas tout à fait correspondre à l'esprit sans doute du législateur. On a une indication d'ailleurs dans le fait que l'article 69 est inséré dans un titre 2, qui s'appelle « Faciliter au quotidien des parcours de santé », dont le chapitre 1er, qui comprend l'article 69, dit « promouvoir », enfin, a comme titre « promouvoir les soins primaires » et favoriser la structuration des parcours de santé. Donc, on peut penser qu'on est plus, comme l'évoquait M. Gallois et comme l'évoquait tout à l'heure Claude Finkenstein, dans des territoires qui sont des territoires autour des bassins de vie, doute pas à l'échelle des anciennes tailles des secteurs tels qu'ils ont été fixés ou tels qu'on s'est attaché à les fixer de la circulaire de 60, c'est-à-dire 70 000 habitants, mais en tout cas des bassins d'une suffisante proximité pour faciliter, et c'est écrit en toutes lettres dans le texte, l'association de l'ensemble des acteurs qui sont bien plus larges que les acteurs purement sanitaires. Une petite observation à ce sujet, d'ailleurs, c'est que vous observerez que les plateformes territoriales d'appui qui sont dans le même chapitre, hein, l'article 74, quelques articles après, dont on, je ne sais pas si elles verront le jour, hein, si elles verront le jour concrètement, mais toujours est-il que ces plateformes territoriales d'appui qui ont pour objectif d'aider les acteurs de santé de terrain pour les piloter ou les aider, les soutenir dans les parcours complexes, est d'abord situé dans le même chapitre. Et par ailleurs, ce qui est intéressant à noter aussi, et ce qui est nouveau dans les PTSM d'ailleurs, ce que j'avais souligné à plusieurs reprises à des tribunes antérieurement, c'est qu'elle fait appel à l'initiative des acteurs de terrain. Et c'est là ce qui est difficile, parce que un territoire, il faut qu'il y ait un acteur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide de son étendue, de son périmètre. On nous dit que l'initiative revient aux acteurs, mais on ne sait pas quels acteurs et dans quel périmètre. Donc je pense qu'il serait là-dessus raisonnable que, tout de même au pilotage de la politique de santé dans les régions, les ARS se concertent avec les acteurs des régions pour réfléchir à l'étendue de ces territoires pour les futurs projets territoriaux de santé mentale. Donc sur le fond, nous, à Santé Mentale France, réjouis de la création. Hein, qu'on soit clair là-dessus, c'est la première fois à ma connaissance que dans la législation, depuis les lois de 70, réforme hospitalière, et de 75 avec la carte sanitaire, et de 75 avec la création des institutions du handicap, c'est la première fois qu'on a une disposition législative qui prévoit que pour un secteur donné, celui de la santé mentale, soit associé et les acteurs du médico-social et les acteurs du sanitaire, et bien au-delà, puisque sont évoqués, bien entendu, les associations de familles et d'usagers, les représentants des usagers, mais aussi, dans l'application de la politique de santé mentale, les acteurs du logement, ce que vous avez évoqué, hein, c'est aussi dans l'article 69, les acteurs de l'insertion, même s'il y a des petites discordances de rédaction entre 3221.1, où on n'évoque pas les acteurs du médico-social, ni les usagers, ni les familles, et le 3221.2, où on les évoque explicitement.
Alors on prendra le 2.
Voilà. Non, prenez le 1 pour vous, parce que le logement est évoqué dans le 1 et pas dans le 2.
Voilà.
Même si dans le 2, il y a une disposition qui prévoit que le PTSM doit prévoir des dispositions pour le logement. Donc, il n'est pas facile de déterminer aujourd'hui, c'est la loi ne nous donne pas la réponse en tout cas, ni le projet de décret, comme je l'évoquais, puisque le projet de décret parle des priorités, ne nous donne pas la réponse sur les critères et les indicateurs qui nous permettent de définir les territoires. Nous avons tendance à penser, comme mon voisin, comme Claude Finkelstein tout à l'heure, que effectivement ces territoires ne doivent pas être définis à partir du périmètre des hôpitaux. Hein ? Ne doivent pas être définis à partir du périmètre des CPT, qui sont un ajout qui n'était pas prévu dans la loi, qui ont été faits parce que pour répondre à la crainte que la psychiatrie est. Et j'y étais, et les bureaux nationaux de l'ADES auxquels j'ai participé dans les 18 mois qui ont précédé le vote de la loi, on ne parlait que de ça, qui ont été faits, qui ont été inscrits finalement dans la loi avant tout, pour éviter la dilution de la psychiatrie et la perte de ressources de la psychiatrie au sein des GHT. D'ailleurs, leur représentant, le président de CME, Gérard Marchand, l'a bien indiqué dans sa colonne de gauche. Donc, pour ce qui nous concerne, le territoire doit être un territoire, le territoire d'action qu'évoquait Madame Haas tout à l'heure, qui est un territoire de proximité, qui permet d'associer l'ensemble des acteurs, sans doute aujourd'hui, le secteur classique ne permet pas de disposer de l'ensemble du panier de services, comme évoque le rapport Lafourcade, qui est nécessaire dans un territoire de santé mentale. Mais en même temps, ça ne doit pas être non plus, nous semble-t-il, un territoire d'une dimension trop importante qui ne permettrait pas d'assurer la participation effective des acteurs, notamment du secteur médico-social, social, et des autres acteurs. D'ailleurs, parce que d'expérience sur Lyon, on a mené depuis le début des années 2000 un travail entre élus de la métropole, bailleurs sociaux et acteurs de la santé mentale, UNAFAM, FNAPSY, établissements psy, établissements médico-sociaux, un travail sur le logement qui implique que les bailleurs sociaux soient attentifs et qui a abouti à des travaux intéressants, des formations croisées que vous évoquiez tout à l'heure sur d'autres régions, des guides qui ont permis aux uns et aux autres de se repérer. Et donc on a besoin pour la santé mentale, et pas seulement pour la psychiatrie, on a besoin pour la santé mentale que ces acteurs-là puissent y être associés aussi. Voilà, bon, je vais raccourcir et écourter puisqu'on est pas à l'avance. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Puis après, éventuellement, dans le débat, on pourra.
Est-ce que pour opérer la transition entre ton propos, l'échange avec la salle et une synthèse plus générale, je peux te soumettre une question, quitte à rajouter à la boîte à outils. On est très embêté avec cette question de territorialité. C'est toujours la même question. On l'a vécu aussi avec les GHT. Est-ce que le périmètre précède le contenu ou est-ce que le contenu peut permettre de définir le périmètre, hein? Je ne sais pas. Cela étant, il y a toute chance que le périmètre il commence à s'imposer petit à petit, y compris au cas d'abstention de notre part. Alors la proposition, c'est de constater que, c'est un simple constat sans jugement de valeur, et on l'avait déjà évoqué en d'autres lieux, que dans la plupart des régions, le département a été retenu comme l'échelle de la conférence territoriale de santé, lieu de la démocratie sanitaire, et que par un cheminement fort complexe depuis le rapport de Victor, est issu du Conseil territorial de santé, une commission spécialisée en santé mentale, que nous avions appelée de nos voeux, mais pas à cette échelle, puisque c'était justement l'échelle de la proximité et d'entité territoriale vue par Bernadette de Victor d'environ 100 000 habitants, quand elle nous l'avait expliqué à l'époque. Et puis tout ça a fait long feu. Moi, il me semblait que ces commissions, elles existent. Elles ont l'avantage de regrouper, si elles sont bien faites, la totalité des acteurs du champ sanitaire, mais certes pas les autres. Mais en particulier, les représentants des usagers et les représentants de toute la médecine libérale, qu'elle soit salariée ou qu'elle soit libérale ou salariée. À titre d'exemple, nous réunissons demain dans notre département. Et je trouve que la commission spécialisée en santé mentale a un immense avantage, même si son périmètre n'est pas complet, c'est qu'elle n'est pas à la main de l'hôpital. S'il faut appeler un chat un chat. Dans notre cas, elle est présidée par l'UNAFAM. Et je pense qu'effectivement, une des variables qui peut choquer quand on l'exprime comme ça, c'est un peu direct, c'est qu'il me semble que, certes, nous pouvons participer de l'initiative, mais le leadership n'est pas forcément spontanément le nôtre ou uniquement le nôtre. Et peut-on imaginer à partir de là que, partant de cet outil supplémentaire dont on fait ou pas quelque chose, après tu l'as cité, il y en a d'autres, est-ce que justement le département étant manifestement dans au moins 90% des cas l'échelle territoriale où il est susceptible de se dérouler quelque chose, est-ce qu'il ne s'agit pas pour nous tous, autant qu'on est, d'élargir au-delà des acteurs du sanitaire la question du diagnostic et d'imaginer qu'on fasse un diagnostic essentiellement départemental pour ensuite voir quels sont les territoires d'action?
Alors, c'est à moi que la question s'adresse. À tout le monde, peut-être. Bon, alors je vais répondre tout de suite. Il me semble difficile de fixer une règle absolument générale. C'est vrai que cette instance-là permet de, de, d'avoir une participation. Il faudrait sans doute en modifier la composition, avoir une représentation élargie, notamment au secteur médico-social. Mais pour prendre des départements qui sont pas si, même si dans la même région, tiens, on est Auvergne-Rhône-Alpes, entre Aurillac et le Cantal et le Rhône, on est dans une échelle de 1 à 12 ou 13. Ça me paraît difficile d'utiliser le territoire dans ce cas-là comme unique critère, j'allais dire, de découpage. Bon.
Je ne raisonnais pas comme ça. Est-ce que le diagnostic se fait à cette échelle, sachant que c'est le diagnostic qui serait supposé nous donner ensuite la bonne échelle du territoire d'action? C'était ça ma question.
Ah oui.
Excusez-moi, à ce niveau, on va passer des questions dans la salle. Je pense que c'est tout à fait nécessaire. Peut-être juste avant, on va applaudir. Oh.